C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Dandy. Auteur, l'être humain, œuvre multiple des religions à l'art, des tableaux au film, des fables aux bandes dessinées, à commencer par les langues mêmes. Personnage, le cochon. Cochon, mon frère, truie, ma sœur. Je pourrais dire chien, je pourrais dire dinde, je pourrais dire pan, je pourrais dire grue, je pourrais dire requin, je pourrais dire thon. Les comparaisons animales existent sans doute depuis que l'être humain parle et ont été en tout cas formalisées dans la littérature occidentale depuis le plus ancien d'entre nous, Homère. Elles sont un élément d'analogie physique qui permet d'aller plus vite en épargnant plusieurs mots. Quand, dans mon dernier livre, je dis de Rainer Maria Rilke qu'il ressemble à une chèvre, ce n'est ni péjoratif, ni mélioratif, c'est factuel. Et ces rapprochements sont des rapprochements en tout point. Ils maintiennent une proximité entre les êtres humains et les animaux. Qui sait si deux albatros survolant la côte atlantique des États-Unis ne se disent pas dans leur langage en regardant une otarie vautrée sur un rocher, elle ressemble à Donald Trump. Le langage est une familiarité au sens famille du terme. Il peut être une familiarité au sens injure du terme. Dans La ferme des animaux, un auteur pour qui je n'ai pas la vénération que généralement on lui porte, George Orwell, défend conjointement le trotskisme et le conservatisme en donnant le rôle des staliniens à des cochons. Orwell a dépassé la littérature pour atteindre le niveau de la croyance et hélas, il n'est plus lu, mais cru. Quelqu'un qui était d'accord avec les cochons et moi, T.S. Eliot, a rejeté sa fable. En tant qu'éditeur chez Faber & Faber, il a refusé le livre d'Orwell en lui remontrant que ces cochons staliniens étaient, je cite, « bien plus intelligents que les autres animaux et par là même plus qualifiés à diriger la ferme. En fait, il n'y aurait pas du tout eu de ferme des animaux sans eux. » Cochons, porc ou truie, ce qui est en cause avec les cochons, ce n'est ni eux, ni leur saleté, ni leur vie supposée, mais le langage même. Le langage humain a besoin de métaphores de rejet. Comme toujours, hélas, il le fait avec la faiblesse, les animaux, les handicapés. Voyez comme on dit, taper comme un sourd ou il est manchot. Traiter d'oie une femme bête nous rassure sur l'humanité, nous avons bien tort. Qui est le cochon? Pour en parler, je reçois Michel Pastoureau, historien, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, auteur, entre autres, du roi tué par un cochon au seuil et du cochon histoire d'un cousin mal aimé chez Découverte Gallimard. Michel Pastoureau, le cochon porte bien des noms dans bien des pays et ce nom sert souvent d'injure. Est-ce que cette réputation est, cette mauvaise réputation est immémoriale?
Non, on la trouve peu dans l'Antiquité classique. Traiter quelqu'un de chien ou de chienne est bien plus fréquent. Il faut attendre la fin du Moyen-Âge et surtout le début de l'époque moderne pour que cochon devienne une injure. Alors ça devient tellement fréquent que ça s'use. Est-ce encore une injure aujourd'hui? Je n'en suis pas tout à fait sûr.
Vous dites dans un des deux livres que j'ai cités qu'il a été, comme vous l'évoquiez à l'instant, en particulier dans l'Égypte antique, considéré de façon tout à fait neutre, et la Grèce et Rome n'avaient pas de préjugés anti-cochon, si je puis dire.
Non, au contraire, c'est un animal qu'on offre aux dieux, c'est même un mets succulent. Dans la cuisine romaine, pour le commun des mortels, c'est la viande la plus consommée, elle coûte plus cher que la viande de bœuf.
Que ce soit à Rome ou en Grèce?
Plus à Rome qu'en Grèce. En Grèce, la chèvre et le mouton sont quand même plus consommés que le cochon, mais à Rome, sous l'Empire, c'est le porc, la principale viande, et c'est une viande de classe favorisée. Et c'est un mets de choix pour l'offrir aux dieux. Donc, la dévalorisation du porc se fait lentement pendant le Moyen-Âge, mais surtout quand le chien se revalorise, c'est-à-dire lentement, et quand le chien devient l'animal de compagnie que nous connaissons, pris en bonne part, il faut le débarrasser d'un certain nombre de ses vices, car comme tous les animaux, il a des vices et des vertus, et parmi ces vices, il y a le péché de luxure. Et le cochon, qui avait pas mal de vices, mais pas la luxure, reçoit en héritage, parce qu'on en débarrasse le chien, vers entre le XIIIe et le XVIe siècle, ce péché, et le cochon se met à faire des cochonneries, pour faire un jeu de mots. Mais c'est un connu de l'Antiquité et du Haut Moyen-Âge.
Est-ce que les monothéismes y seraient pour quelque chose? Parce que quand on voit les interdits du cochon dans l'islam et le judaïsme, et quand on voit, non pas l'interdit, mais enfin, si on pense à l'évangile selon saint Matthieu, ne pas jeter des perles aux pourceaux, j'ai un peu l'impression que les monothéismes se sont acharnés sur le cochon, peut-être pas parce qu'ils sont monothéistes, mais peut-être parce qu'ils sont proches orientaux et qu'il y a quelque chose à voir avec cette région du monde.
Oui, c'est surtout l'héritage biblique. La Bible n'est pas très favorable au porc. C'est parce qu'il est sale et goinfre, et surtout parce qu'il ne regarde pas vers le ciel, mais vers la terre. Il fouille toujours le sol. Donc, en effet, il est pris en mauvaise part. Mais dans les interdits bibliques du Lévitique, notamment, ce qui est en cause, surtout, ce sont des problèmes de classification du monde animal. Et les animaux tabous, ce sont ceux que les sociétés anciennes, et notamment les sociétés de la Bible, n'arrive pas à classer. Et le cochon a le pied fendu comme les ruminants et il ne rumine pas. Donc on ne sait pas où le mettre et ça va l'accompagner pendant de longs siècles. Buffon, qui n'aime pas non plus les animaux qui n'entrent pas dans sa classification, est très méchant avec le porc. Donc c'est ça qui joue et aujourd'hui on a un peu abandonné, à propos des tabous chez les Hébreux et chez d'autres peuples de l'Antiquité, l'idée climatique, l'idée hygiénique, la viande de porc qui ne se conserverait pas. On sait très bien que dans les mêmes zones géographiques, sous les mêmes climats, des peuples mangent du porc et d'autres non. Il faut chercher ailleurs. Alors il y a plusieurs pistes. On va en retrouver quelques-unes, je pense, tout au long de l'émission. Mais il y a ces problèmes taxinomiques. Que faire du cochon par rapport aux classifications du savoir? Et puis sa parenté biologique et anatomique avec l'être humain qui lui donne un statut très particulier.
Mais quelle parenté?
La parenté que connaissent les médecines anciennes et que confirme tout à fait la médecine contemporaine, elle est à la fois anatomique, biologique, physiologique. C'est le cousin germain de l'être humain, le cochon. Et ça explique, à mon avis, beaucoup de tabous.
Si les clergés se sont permis ou se sont arrogés le droit de conspuer le cochon, vous dites qu'il n'y a peut-être pas de règles très très logiques. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport aussi très simplement capitaliste avec l'élevage? C'est-à-dire peut-être que ça s'est passé dans des endroits où l'élevage du cochon diminuait au profit d'autres animaux. Et on sait bien que les clergés ne sont pas aussi rigoristes soient-ils, ne s'opposent jamais au commerce. Donc ils s'attaquent au commerce déclinant peut-être. Est-ce que c'est de l'ordre du possible?
C'est possible, alors pour des époques plus récentes, lorsqu'il y a une espèce de lien entre le cochon et l'argent, hein, que les tirelires soient en forme de cochon dès la fin du XVIIIe siècle, explique ce rapport avec l'argent, la prospérité. Des proverbes du type « qui possède un porc ne sera jamais pauvre » existent dans toutes les langues entre le XVIIIe et le XXe siècle.
Alors, pour en rester un instant dans le christianisme, vous relevez vous-même que dans le christianisme médiéval, on rencontre parfois des représentations picturales positives du cochon.
Oui, il y a le cochon compagnon de certains saints, par exemple. Saint Antoine, c'est le cas le plus célèbre. On raconte que, retiré au désert, Antoine a été denté, comme on le sait, mais aussi agressé par des bêtes sauvages. Le désert, pour l'Occident, c'est la forêt. Donc il y a des loups et des sangliers. Puis peu à peu, les loups disparaissent, il n'y a plus que les sangliers menaçants. Et progressivement, dans les images, puis dans les textes, entre l'époque carolingienne et le XIIe siècle, ces porcs sauvages deviennent des porcs domestiques et ne sont plus agressifs. Et l'un d'entre eux devient le compagnon du saint, c'est un topos. Beaucoup de saints ont un animal pour compagnon, protecteur, nourricier, tout ce que l'on veut. Et donc l'iconographie multiplie la mise en scène du cochon de saint Antoine. Et parfois il y a confusion d'ailleurs entre les deux saint Antoine. Saint Antoine le Grand, père du monachisme, et puis saint Antoine de Padoue, le compagnon de François d'Assise, le saint Antoine de Padoue qui est le saint préféré hein, à la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne de tous les saints, et on ne sait pas trop pourquoi.
Préféré comment?
C'est celui qui reçoit le plus d'argent dans les troncs des églises.
On l'a pu le quantifier, ça?
Ah oui, il y a pas mal d'études d'historiens de l'époque moderne à propos du pillage des troncs. On fait des statistiques. Qui reçoit le plus d'obols, d'offrandes? C'est saint Antoine de Padoue, il écrase tout.
Hein. Pour le coup, on aurait dû lui mettre une tirelire en guise de tronc.
Tout à fait, en forme de cochon, pour évoquer l'autre saint Antoine.
Le cochon est flatté d'au moins quatre vices qui sont la malveillance, la vanité et la luxure. Et en employant le mot de vice, je viens d'employer le mot que vous-même avez employé tout à l'heure, c'est-à-dire que j'applique à une catégorie animale ou un animal une catégorie morale humaine. Et évidemment, aucun de ces supposés vices, je crois qu'en réalité, le cochon ne l'a. Je ne pense pas que le cochon soit un animal plus sale qu'un autre.
Non, pas du tout. Si on le met dans des conditions où il peut rester propre, il reste propre. Il a un problème de sudation, une peau où les pores se ferment facilement, donc il a souvent trop chaud. Donc il a besoin d'eau, et s'il ne peut pas se tremper ou se rouler dans l'eau, il le fait dans la boue. Mais c'est une nécessité physiologique chez lui. Mais autrement, il n'est pas plus sale. On a eu aux États-Unis depuis une cinquantaine d'années des cochons d'appartement qui sont aussi propres que les chats. Oui, tout à fait, des cochons nains, bien sûr.
Et quant à la luxure, cette fameuse luxure.
Alors la luxure, donc le cochon en est dispensé pendant assez longtemps, jamais ou rarement les auteurs de l'Antiquité et du Moyen-Âge ne parlent de la luxure du porc. Il faut attendre vraiment l'extrême fin du Moyen-Âge et surtout le début de l'époque moderne quand il reçoit ce vice en plus de tous les autres, alors qu'il n'y est pour rien, parce qu'il faut en débarrasser le chien, qui est un animal qui se revalorise, qui a trop de vice, mais dans les sociétés anciennes et médiévales, c'est lui l'animal luxurieux par excellence, et on aurait dit pour une femme, balance ton chien et pas balance ton porc, hein, dans la Rome antique.
Le chien évidemment était revalorisé parce qu'il était non pas de plus en plus domestiqué, mais peut-être parce qu'il était tout d'un coup à la mode d'avoir un chien, c'était ça, et que d'ailleurs dans les représentations picturales, il me vient à l'esprit peut-être que Éléonore d'Autriche, la femme de François Ier, représentée avec son chien.
Il y a pas mal de chiens, oui, qui accompagnent les rois et les princes. Alors, il y a chien et chien, et la revalorisation se fait d'abord par la chasse, c'est le chien de chasse qui est le premier revalorisé, puis des chiens compagnons, des chiens qui ont le droit d'entrer dans les intérieurs, royaux et princiers, et puis l'espèce canine, globalement, si je puis dire. Donc, ça se fait lentement tout au long du Moyen-Âge, alors que pour le chat, qui est un animal diabolique, pendant longtemps, la revalorisation se fait d'un coup au milieu du XIVe siècle, au moment de la Grande Peste. On comprend que les rats sont les propagateurs de l'épidémie. On se demande si les chats ne seraient pas plus efficaces que les belettes pour chasser les rats. On utilisait des belettes jusque-là. On fait l'essai. Ça marche, et le chat, en 2-3 générations, devient le compagnon que nous connaissons, qui se chauffe au coin du feu.
Est-ce qu'il existe une civilisation ou une société où le cochon n'ait jamais été l'objet du moindre mépris? Est-ce que, par exemple, en Chine, où je crois qu'il est assez associé à l'idée de prospérité, etc., il est d'une quelconque façon méprisé?
Non, je crois que dans la société chinoise, c'est un animal qui est très valorisé, qui est admiré, qui porte bonheur. Être né sous le signe du cochon, mon savoir est de deuxième main ici, mais c'est le meilleur des signes. Donc je ne vois pas qu'il soit pris en mauvaise part. C'est vrai d'ailleurs de la Chine, mais d'une assez large partie de l'Extrême-Orient. Au Japon aussi, le Japon n'est pas négatif. En revanche, dans ce qui correspond à la péninsule indochinoise ou en Inde, les problèmes sont différents. Il faut opérer des géographies là, parce que les peuples n'ont pas la même attitude envers le porc. Mais dans ce qui correspond à des zones, la Malaisie ou la Nouvelle-Guinée, c'est pareil. Le cochon est très très valorisé. Des ethnologues ont même rapporté dans les années 20 et 30 du XXe siècle des photographies de Nouvelle-Guinée, de peuple de Nouvelle-Guinée, où on voit des femmes allaiter à un sein un nouveau-né, à l'autre sein un porcelet, qui sont élevés ensemble.
Et finissons le tour du globe, puisque nous y sommes, en Afrique.
Alors en Afrique, il faut aussi faire une géographie. Il y a le problème ensuite, bien sûr, de l'islam et de son avancée. Pour l'islam, le porc est complètement taboué. Mais ailleurs, les religions animistes n'ont absolument rien contre le porc. Et c'est au contraire une richesse que de posséder des cochons. Le problème, c'est que le climat africain, en tout cas tropical et équatorial, convient mal pour cet animal.
Et sur le continent américain ?
Alors, là, on a transposé des valeurs, des pratiques européennes. Le cochon a été importé, en quelque sorte, et donc dans les systèmes amérindiens précolombiens, il n'est pas présent. Mais c'est le tapir qui joue un peu ce rôle-là.
Ah. Est-ce que, d'ailleurs, dans la Rome antique, je pense à Énée et à sa truie qui met bas, je ne sais plus combien de...
30.
30 gorées, merci. Est-ce que, à cause de ça, le cochon était aussi un synonyme d'opulence ou les Romains s'en désintéressaient?
Non, non, c'est un synonyme d'opulence. D'ailleurs, tout le bétail a à voir avec la richesse et la prospérité. Le mot pécunia signifie à la fois bétail et argent. Et parmi les bestiaux, si je puis dire, le cochon, surtout sous l'Empire, moins sous la République, mais sous l'Empire, c'est un animal très très valorisé, admiré, attribut d'un certain nombre de dieux. Donc il est rarement pris en mauvaise part. On ne traite pas, pour s'insulter, quelqu'un de porcus. En revanche, on fait un jeu de mots entre porcus et corpus. On souligne déjà cette parenté avec l'être humain.
Alors que les Italiens, qui sont les plus directs descendants des Latins, eux disent porco et troia.
Oui, bien sûr, et ça n'est pas très valorisant.
Ça n'est pas très valorisant. D'ailleurs, dans plusieurs langues, même en Europe où le cochon est plutôt mal aimé, parfois, il porte chance en italien. On dit un colpo di porco et Schwein haben en allemand, qui veut dire avoir de la chance, mais peut-être avec une légère nuance d'inéquité ou d'absence de mérite.
Ou d'ironie, mais au départ, c'est cette idée qui possède un cochon ne sera jamais pauvre. Et dans les pratiques des porte-bonheur du 19e siècle, le cochon est associé au trèfle à quatre feuilles, au fer à cheval. On le voit beaucoup sur les cartes postales fin 19e, début 20e siècle qu'on envoie pour le nouvel an. Et dans les pays germanique, c'est encore plus fréquent qu'ailleurs. Schweinglück, ça porte bonheur.
Est-ce que vous pensez que la légende, j'appelle ça légende parce que ça me paraît douteux, mais peut-être qu'après tout c'est vrai, la légende corse selon laquelle les cochons mangent tout sauf les dents ne contribue pas à un effet de sympathie envers le cochon ?
Probablement, parce que l'homme est totalement omnivore lui aussi. D'ailleurs, dans le cochon, l'homme mange tout. C'est un cas exceptionnel. Probablement, ça crée une sorte de sympathie plus ou moins consciente, tacite, mais elle existe. Notamment chez les enfants.
Chez les enfants ?
Oui, il y a une attraction pour le porc. J'avais lu des enquêtes sur, dans des classes primaires, associer le nom d'un animal et un certain nombre de concepts ou d'idées à quoi vous fait penser tel animal ou tel animal. Et pour le cochon, il y avait saleté, bien sûr, il y avait manger, mais il y avait rigolo, il y avait gaieté, il y avait rose. Donc, il y a une sorte d'attirance entre le jeune enfant et le cochon, qui n'est pas récente, d'ailleurs.
Est-ce que les enfants n'ont pas pu être là aussi consciemment ou inconsciemment influencés par les contes ou les livres d'enfants ou Naf Naf, les trois petits cochons ou
bien
cette
sûr,
idée-là
oui, oui, les livres pour enfants, les contes, les bandes dessinées, le bestiaire des jouets en peluche. Moi-même, quand j'étais enfant, les deux vedettes du livre étaient l'ours et le cochon.
Nous allons maintenant entendre la pastorale des Cochon rose d'Emmanuel Chamrier, au piano François Stillard, baryton Franck Le Guérinel. C'est un enregistrement de 2008. Michel Pastoureau, depuis le début de ce personnage en personne, nous parlons, et moi le premier, à peu près indistinctement du porc, du cochon. Est-ce qu'il y a une nuance dans les appellations? D'abord dans les faits. D'après tout, je ne sais même pas s'il y a physiquement ou dans les catégories animales une différence entre un porc et un cochon.
Alors, l'étymologie du mot cochon est inconnue ou controversée en tout cas. Il semble que ce soit une sorte d'onomatopée au départ réservée aux jeunes porcs. Mais le mot porcelet existe depuis longtemps, donc on est d'abord porcelet, puis cochon, puis verra. Puis, à partir du XVIIIe siècle, cochon, c'est plutôt le porc castré, le porc adulte mais castré, et le verra étant le mâle reproducteur, en quelque sorte. Le fait qu'il y ait un vocabulaire assez riche pour distinguer le mâle de la femelle et puis les différents âges de l'animal souligne combien cet animal est important dans ses relations avec les hommes. On trouve la même chose, bien sûr, chez les bovins, chez les chevaux, mais... pas beaucoup d'espèces domestiques ont droit à un lexique aussi riche.
Alors je voudrais maintenant que nous passions cette deuxième partie avec les œuvres de fiction et ce qu'elles nous disent du cochon. Dans Le cochon, la chèvre et le mouton de La Fontaine, un cochon queen, il est seul à protester parmi d'autres animaux, pensant qu'on le mène à l'abattoir, et la morale de la fable est que ça ne sert à rien. Quand le mal est certain, la plainte ni la peur ne changent le destin, et le moins prévoyant est toujours le plus sage. C'est-à-dire que la Fontaine semble avoir la dignité avec lui, mais est-ce qu'au contraire, la dignité ne consiste pas à se révolter, à être un porc? Ce qui me fait penser à cette anecdote vraie ou fausse de Madame du Barry montant à l'échafaud après tant de nobles qui s'étaient fait couper le cou poliment, et Madame du Barry proteste, elle qui était d'origine roturière, et là, dit-on, les tricoteuses de la place de la Concorde se sont mises à hésiter à trouver ça inhumain.
Et elle a demandé au bourreau d'attendre un peu, si je me souviens bien.
Dit-on. Oui.
Voilà, et le cochon fait pareil chez La Fontaine, ce qui prouve que c'est un être sensible et qui comprend le destin qui lui est réservé.
Alors, un des cochons les plus sympathiques, à mon avis, pour les enfants, mais aussi pour les adultes, c'est Miss Piggy. Miss Piggy, la cochonne qui est diva, qui est faussement modeste, qui est d'un narcissisme délirant, qui adore d'ailleurs dire « moi » en français dans la version américaine. Et elle a une sagesse que lui envierait, je crois, Marc Aurèle. Elle dit en particulier « ne mangez pas plus que vous ne pouvez soulever ».
Oui, de la part d'un cochon, c'est assez savoureux. En plus, elle a un côté assez fortement sensuel. Pas sexuel, mais sensuel. Elle aime le plaisir des sens.
Ben, en même temps, c'est un hommage comique, et parfois les hommages comiques portent plus que les hommages ou tragiques ou sérieux.
Bien sûr, c'est un médium qui porte très très loin, et qui dit beaucoup de choses, oui.
Est-ce que vous avez souvenir d'autres exemples de cochons ayant servi de manière comique à moquer, et par là même indirectement à flatter un artiste ou pas? Est-ce que ça existe là en ce moment? Évidemment, on voit partout des caricatures de Donald Trump en cochon, mais ça n'est, Dieu sait pas, valorisant.
Oui, ce qu'on retient le plus souvent, c'est en effet la caricature dépréciative. Louis XVI a été fréquemment représenté sous forme d'un cochon ou avec une tête de cochon. Des cochons qui valorisent celui qu'il représente, comme ça je ne vois pas. C'est toujours un peu implicite parce que le cochon n'est pas mauvais tout d'une pièce. Il a aussi, on lui reconnaît une intelligence, hein. D'ailleurs dans le palmarès de l'intelligence animale, il est très très bien placé, et ça on le sait depuis très très longtemps. Et en outre, il y a cette espèce de sympathie sous-jacente qui n'est jamais absente dans la mise en scène du cochon.
Si on progresse vers les fictions vers l'âge adulte, nous avons un dessin animé japonais qui s'appelle Porco Rosso et qui est très très intéressant, je trouve.
Plus qu'intéressant, presque étrange, on est quand même...
Est-ce que vous voulez nous raconter un peu de quoi il s'agit?
Le peu que j'en sais, mais nous sommes dans l'Italie de l'après-première guerre mondiale, le fascisme est en train de monter, et si je me souviens bien, un aviateur, un as de l'aviation, a été horrifié par ce qu'il a vu dans la boucherie de la première guerre mondiale, puis par ce qui se passe en Italie, et... Il décide deux choses, d'une part de devenir cochon, ou partiellement cochon, physiquement, et puis d'être un peu redresseur de tort, ou de supprimer les pilotes qui se sont très mal comportés, ou qui vont très mal se comporter. Dans mes souvenirs, ça se passe comme ça.
Ouais, ouais.
Mais il est aviateur quand même, ce cochon pilote, mi-humain, mi-porc. Parmi les cochons de fiction, ce Porco Rosso...
Antifasciste,
et... oui, tout à fait, redresseur de tort, et en plus, en même temps, pessimiste.
Oui, oui, c'est
très
ça.
Très pessimiste, oui, oui, c'est ça. Ce qui n'est pas dans la nature du porc.
Un des plus récents films pour adultes, si je puis dire à nouveau comme ça, avec un cochon pour héros, et que j'ai trouvé très intéressant, c'est Okja, de Bong Joon-ho, qui est le réalisateur qui a obtenu la Palme d'Or récemment à Cannes. C'est un film de 2017. Et là, c'est une interprétation tout à fait originale du cochon.
Oui, alors c'est l'amitié entre une fillette et un animal qui ne fait que grossir, victime du capitalisme et de la cupidité d'une société agroalimentaire.
Il faut dire, pardon de vous interrompre, que c'est un cochon de synthèse,
oui,
qui a été créé par cette entreprise américaine.
Voilà. Et donc plastiquement, il est cochon, mais il est aussi une sorte de monstre qui tire un peu vers l'ours, l'hippopotame, oui, le faciès d'hippopotame. Le corps est celui d'un énorme porc, mais la tête plus celle d'un hippopotame. C'est intéressant parce que pour les enfants, il y a une sorte de cousinage formel entre le cochon, l'hippopotame et l'ours.
L'ours aussi,
ah. Parce que c'est un animal comme le cochon qui... quand on le représente de manière symbolique, emblématique, schématisée, l'écart est immense entre ce qu'est l'animal véritable et ce qu'il est devenu dans le dessin. Pour le porc, c'est typique, entre un porc de fiction et un porc réel, l'écart plastique est considérable. Pour l'ours, c'est un peu pareil, oui.
Et donc là, dans Okja, l'écart est d'autant plus considérable que c'est donc un porc de synthèse qui ressemble pas tellement à un porc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la compagnie américaine veut organiser un concours du plus beau cochon, et que c'est aussi une fable sur la cupidité.
Voilà, la cupidité, l'immense cupidité et l'utilisation des animaux pour parvenir à des fins mercantiles. Ça n'est pas récent, mais là, c'est poussé au paroxysme et dénoncé par le biais du regard de cette fillette ou jeune fille. Je ne me souviens plus si elle est toute
petite,
jeune.
Oui, toute jeune, elle a 8 ou 9 ans, je pense, oui. Quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur n'est pas complètement mono-haineux, si je puis dire, parce que il se manque aussi d'un front de libération des animaux qui se moque du narcissisme des extrémistes en la personne de ce Front de Libération des Animaux, ce qui est assez original.
Oui, et c'est une tendance d'ailleurs aujourd'hui où l'on nuance quand même les attitudes que l'on dénonce. Ça ne va pas jusqu'au bout où ça s'accompagne de subtilités sur les marges qui vont un peu à l'encontre de l'idée principale.
En effet. Et je voudrais qu'on finisse sur un réalisateur probablement bien meilleur, évidemment, puisque c'est Wong Kar-wai. Et dans un de ses très bons films qui s'appelle Les Anges Déchus, il y a un personnage un peu dingue qui est interprété par Takeshi Kaneshiro, qui masque, qui piétine un cochon, et on ne comprend pas bien si ce cochon est symbolique ou non. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que c'est pour la première fois un usage de cet animal qui n'est pas allégorique. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Et est-ce que ce n'est pas comme ça que, quittant l'allégorie, l'animal pourrait devenir mythique? Le mythique, c'est quand l'interprétation reste obscure, n'est-ce pas?
Oui, ou alors c'est au lecteur ou à l'entendeur de faire sa propre interprétation, et le schéma de départ est polysémique, c'est quelque chose comme ça, un dispositif pluriel, je verrai ça comme ça, peut-être que je me trompe, mais le cochon se prête bien à des interprétations qui partent dans différentes directions, parce que lui-même est un animal qui est très différent de tous les autres et qui a des vices et des vertus. Oui, polysémique, c'est le mot qu'il faut employer.
Michel Pastoureau, que vous a appris le cochon comme personnage ?
Alors, ce qu'il m'a appris au fil de mes recherches sur ces cochons littéraires ou de fiction, c'est combien il y a un cousinage immense entre l'homme et le cochon, pas seulement sur le plan anatomique, biologique et physiologique, mais sur le plan moral et sur le plan narratif. C'est assez fréquent. Je crois qu'aucun autre animal n'a été aussi fréquemment sollicité comme cousin de l'être humain. Ça commence dans l'Odyssée avec la transformation en porc des compagnons d'Ulysse. Et récemment, le livre de Marie Dariussecq, par exemple, Truisme, raconte l'histoire d'une femme qui est changée progressivement en truie et qui s'en trouve très bien.
C'était Personnage en personne, le 108e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de Spartacus.
Comme si j'étais assis Là-haut, paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attaché de production Meryl Moneghetti, prise de son Valérie Lavalard.
De ma vie.
Dans un instant, Victor Massé de l'Épinay et le rayon BD.
C'était un...